Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. Il y aura bel et bien une réforme de l'assurance chômage V3 avant l'été, dit Gabriel Attal. Il l'a encore répété hier au Salon de l'agriculture. Nous avons un rapport intermédiaire de France Stratégie qui a été publié pour essayer d'estimer les effets des deux précédentes, 2019-2021. Il y a des résultats, mais alors vous allez voir, il y a des résultats, mais il y a aussi des quantités de bémols à apporter. La semaine de 4 jours, ou la semaine en 4 jours. Moi, le sujet m'intéresse pas mal, parce qu'il y a un débat qui est en train de s'installer quand même. Je ne sais pas si c'est un débat idéologique, mais il y a ceux qui disent les entreprises font ce qu'elles veulent et laissons-leur un maximum de liberté. Et puis, il y a ceux qui ont un petit désir de parfum de 35 heures V2, 35 heures bis repetita. Pourquoi la croissance française est-elle si médiocre ? Voici une bonne et belle question qui était posée il y a quelques jours par le tandem Landier-Tesmar. C'était dans le Figaro, Augustin Landier est avec nous, on va en parler. L'appétit pour la dette publique française ne se dément pas. L'agence France Trésor a fait une jolie levée de 8 milliards d'euros sur 30 ans. C'est de la maturité longue. Et donc, je dis que ça ne se dément pas parce que pour 8 milliards levés, il y a eu une demande de 75 milliards d'euros. Et sur ce sujet, il y a une chronique de Gaspard Koenig qui m'a surpris dans Les Échos ce matin. Il nous fait un peu du Nicolas Bavrez en nous expliquant que de toute façon, un jour, le pire se produira. Et le pire pour un État, ça s'appelle bien sûr un défaut de paiement. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici à 2030. Information dévoilée hier soir à l'occasion de du premier jour de la visite d'État de l'émir du Qatar. C'était à l'Élysée. Alors, 10 milliards d'euros, j'en débattais avec Jean-Marc Daniel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce que ça veut dire que petit à petit, nous nous vendons à l'étranger ? Ou est-ce que nous sommes hyper attractifs et il faut s'en réjouir ? Voici encore une jolie question à laquelle on tentera de répondre. Et s'il reste du temps, on fera du prix plancher. Mais uniquement s'il reste du temps. Alors, j'ai pas trouvé un économiste qui défend les prix planchers, qu'il soit de gauche ou de droite. Alors, Philippe Chalmin en remet une couche ce matin dans Les Échos. Il dit que c'est une chimère. Voilà, c'est un miroir aux alouettes. Et il nous rappelle que la PAC s'est construite sur une idée de prix intermédiaire et qu'on connaît la suite. Bonjour, Éric Heyer.
Bonjour.
Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Professeur à HEC, co-auteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion et co-auteur avec David Tesmar de cette chronique dans Les Échos le 8 février. De toute façon, vous n'avez jamais écrit tout seul. Et lui non plus d'ailleurs.
Oh bah, la recherche c'est un travail collectif hein, maintenant, donc j'écris pas que David, mais en fait on travaille par équipe le plus souvent maintenant en recherche.
J'ai ressorti là les 10 idées qui coulent la France. Je crois que vous pourriez en réécrire une partie. Il est sorti il y a pas mal d'années.
Elles ont la dent dure, ouais. c'est des idées qui sont pas sorties de l'esprit des gens. Ouais.
C'était le précédent. Bonjour Stéphane Van Uffel.
Bonjour Nicolas.
Co-fondateur de netinvestissement.fr. Voilà ce que nous dit France Stratégie sur les réformes 2019-2021. Je vous rappelle, on change le mode de calcul du salaire journalier de référence. Je rentre pas dans le détail, c'est cornélien. Hein. On passe de 4 à 6 mois la durée minimale de travail pendant les 24 derniers mois pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. On impose la dégressivité des indemnités des cadres de 30% à partir du 7e mois, mais uniquement pour les hauts salaires, et on met en place un bonus-malus pour les employeurs qui multiplie les contrats courts. Qu'est-ce que ça a donné, nous dit France Stratégie ? Des résultats. Oui, mais alors on a du mal à quantifier ce qui est purement lié aux réformes, et ce qui est aussi lié à un formidable décollage du marché de l'emploi après Covid. Et puis, il faut bien reconnaître qu'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que le président s'était engagé à rendre les systèmes contracycliques... Voilà. Bon, comment vous accueillez, Éric Heyer, ces travaux de France Stratégie qui disent deux choses quand même, je retiens deux choses. Le fait de passer de 4 à 6 mois la durée d'activité, objectivement, il semblerait vraiment que ça ait poussé à la reprise d'activité, donc point positif. Et bonus-malus, qui cette fois-ci concerne les employeurs, a provoqué un allongement de la durée des contrats. On aurait tendance à dire, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que ce genre de réformes ont des effets positifs.
Moi, les doutes ne sont pas levés.
Et alors, c'est un rapport intermédiaire.
Hein. C'est un rapport intermédiaire. Et si vous rentrez dans le détail, oui, effectivement, ça a permis un retour à l'emploi un peu plus rapide. Mais ce que dit le rapport, c'est que si vous étiez dans un contrat court, il n'y a pas eu de reprise plus rapide. Et si vous étiez dans un contrat un peu plus long, un retour à l'emploi effectivement plus rapide, mais dans un emploi moins durable. Donc attention. Et ça, je pense, c'était l'idée qu'il y avait quand même derrière. C'était attention, dès que vous mettez la dégressivité, dès que vous durcissez, oui, bien sûr, vous incitez les personnes à retourner plus vite à l'emploi. Ça, je pense que personne n'avait de doute là-dessus. Le problème, c'est que ça prend, normalement, de l'emploi à des personnes qui auraient pu avoir ces emplois-là. Donc, en termes de chômage, il y avait quand même... Ça a bien été documenté, c'est-à-dire tout type de dégressivité n'a jamais fait baisser le chômage. C'est-à-dire que vous incitez, admettons, les cadres à reprendre un emploi, mais un emploi de moins bonne qualité...
Il prend un emploi qui aurait pu bénéficier à quelqu'un de moins qualifié.
Exactement. Et ça, la littérature académique était quand même assez abondante. Ce n'est pas bon à long terme. Pourquoi ? Parce que les personnes se sentent déclassées. Ils prennent un emploi qui n'était pas à leur juste valeur, et les employeurs sont déçus parce qu'ils pensaient avoir finalement quelqu'un de plus qualifié que ce qu'ils attendaient, et finalement ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ultra motivé dans ce travail-là. Donc attention.
On dégrade la qualité au profit de la quantité.
Et vous n'êtes pas exactement à votre juste valeur. Donc moi, je serais quand même très prudent. En plus, vous l'avez très bien rappelé, c'est pendant une période où la conjoncture repartait, où on a créé énormément d'emplois. Donc, est-ce que c'est lié à l'activité ou est-ce que c'est lié à la réforme ? Il va falloir attendre. Donc, c'est très bien. Faisons ce type d'étude, mais attendons avant de dire, voyez, ça fonctionne. Et donc, et ensuite, pour votre deuxième question, est-ce qu'il faut faire une V3 ou une V4 ?
On est à V3, enfin sous ce président-là.
On est quand même à la cinquième réforme depuis 2017. Non mais c'est énorme.
Cinquième
depuis 2017. Enfin, ça sera la cinquième si on en fait une nouvelle. Donc on est à 4. Donc tout de même,
il y en a qui m'ont échappé des réformes de l'assurance.
Mais moi je pense que aujourd'hui, penser. Alors moi très sincèrement, je suis, mais vous le savez, pour la contracyclicité.
Bien sûr.
Donc que l'on essaie de durcir les droits quand il y a une conjoncture qui est bonne. Je pense qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin, mais pourquoi pas ? C'est effectivement, il y a des difficultés de recrutement, et essayons de durcir un peu pour essayer de faire que le chômage un peu structurel baisse. Mais aujourd'hui, la conjoncture a complètement changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent, on n'a plus de demandes, les carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, il n'y a plus de création d'emplois. Les créations nettes d'emplois, c'est zéro, même légèrement négatif.
On est en négatif ? Je croyais qu'on était encore un peu positif.
Ça fait moins 8000.
Bon, oui, d'accord.
C'est zéro, disons zéro. Ok, quand vous n'avez pas de création nette d'emploi, pensez que les chômeurs ne veulent pas retourner à l'emploi parce qu'ils préfèrent rester au chômage. Non, aujourd'hui, quand vous êtes dans une conjoncture qui ralentit, d'accord, normalement la contracyclicité dit bon, c'est bien de laisser du temps aux chômeurs au chômage, réduire leurs droits, ça veut dire qu'ils vont tomber dans des minima sociaux, d'accord, ils risquent de sortir du radar, c'est-à-dire qu'ils vont même plus s'inscrire à Pôle emploi, alors si maintenant parce qu'ils vont être obligés, mais globalement...
Pour les RSA. Hein.
Oui, mais je pense que là, ça sera pas le bon moment. Donc, sincèrement, je pense que là, il y a eu suffisamment de réformes. Attendons que ces réformes prennent et allez vite pour une nouvelle réforme uniquement, parce que c'est ce qui est dit aussi dans le rapport. C'est-à-dire que ce qui a marché, c'est qu'il y a eu 17% de moins d'allocations chômage.
J'avais pas donné effectivement le chiffre, mais c'est celui-là.
Bon.
Si
vous voulez faire des économies, ça marche, oui, parce que vous réduisez les droits. Mais attention, ces personnes-là, d'accord, ne sont pas au chômage parce qu'elles ont envie d'y rester, mais c'est aussi parce que, globalement, il n'y a plus de création d'emplois.
Gabriel Attal, donc, en deux jours, JDD et Salon de l'agriculture hier, il dit la même chose. Voilà, il dit, voilà, il est possible qu'on réduise encore la durée d'indemnisation. Elle est tombée à 18 mois pour les moins de 53 ans. On pourrait aller à 15, je ne sais pas. Hein. Ou alors qu'on aille plus loin en termes de dégressivité, que ce ne soit pas uniquement au bout de 6 mois, à partir du 7e mois pour les hauts revenus cadres, mais pour plus de gens. Il y a un moment, si on met de la dégressivité, il faudra aussi jouer sur les cotisations. Quel est votre avis ? Je vais vous le dire plus violemment, parce que c'était la logique britannique. Les Britanniques se disaient, on va rendre totalement insupportable la période au chômage. Tellement insupportable que personne ne va vouloir résister. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mis à 98 livres l'indemnité hebdo, peu importe le salaire qu'on a avant. Vous assurez, quand vous aviez un bon gros salaire et que vous tombez à 98 livres par semaine, c'est la misère totale. Mais bon, c'était leur pari. Vous en pensez quoi ? Il faut remettre le couvert aujourd'hui, au moment où tous les indicateurs basculent.
Bah, d'abord, vous tournez vers moi
Stéphane
pour le modèle. Voilà, vous tournez vers moi pour le modèle anglo-saxon.
Non.
Ils ont pas forcément toujours raison.
J'ai simplement dit plus violemment.
Non, mais parce que moi, je défends souvent des idées libérales, mais pour autant, le libéralisme anglo-saxon, américain, anglais n'est pas forcément loin de là.
Non, il y a des bémols dans votre libéralisme.
En politique
sociale.
Il y a
des bémols dans votre libéralisme.
D'abord, la question qui est posée est extrêmement large et extrêmement compliquée. D'un point de vue très politique, ma vision à moi, Nicolas, elle est simple. Gabriel Attal, comme le président Emmanuel Macron, il répond aux besoins des Français. Tous les sondages le
dit, la dégressivité, les Français étaient pour. La réduction encore là des indemnités dans le temps, les Français sont pour. Sauf quand ça commence à les toucher, eux. Oui. Donc en fait, on est finalement dans une phase, pour moi, dans ma vision à moi, d'abord tout à fait politique.
Ah donc, je résume ce que vous dites. Comme on sait que l'opinion globalement sur un durcissement des conditions de chômage est plutôt du côté du durcissement, allons-y, c'est ça l'histoire.
C'est pas allons-y, on fait de la politique. Et Eric a raison. Et alors, à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup débattre avec Eric.
C'est l'avis des gens derrière.
Je suis fondamentalement souvent pas d'accord avec Eric hier. En revanche, la façon dont il exprime les choses met beaucoup de clarté dans le fait de ce pourquoi je ne suis pas d'accord. Ce que fondamentalement, je pense, nos politiques souvent ne font pas. Ils n'en sont pas allés expliquer le problème du ruissellement lorsque l'on fait ce genre de dégressivité ou lorsque l'on réduit la durée du chômage. C'est-à-dire qu'on finalement on appauvrit les compétences de certaines personnes qui remplacent des gens qui en ont encore moins. Donc en fait, on durcit le chômage le plus difficilement résorbable, celui des gens les moins qualifiés. C'est le libéral qui vous dit ça. C'est pas pour autant que je suis d'accord de dire « Ouais, intellectuellement, il faut quand même faire quelque chose. » C'est-à-dire qu'intellectuellement, on ne peut pas se dire « À partir du moment où je vais être déclassé, je vais rester en inactivité plutôt que de reprendre un boulot. » C'est là où le libéral a les oreilles qui commencent à bourdonner et où on n'est pas d'accord. Parce que je dis « Si, crée ta propre entreprise, deviens auto-entrepreneur, etc. » Elle est juste là, la différence.
Et traverse la rue, quoi.
Traverse la rue.
Oui,
arrête de compter sur l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à un moment donné...
Mais on a fait pas mal, quand même. C'est pour ça que je dis on n'a pas rien fait.
On a fait pas mal. Alors maintenant, je vais juste vous donner le dernier point, parce que je vais laisser Augustin parler de ça. Mais moi, il y a une seule chose qui me gêne, c'est le chiffre que vous avez malheureusement oublié, mais qu'Éric a rappelé, les 17% d'économie.
17% de... Non, 17% de baisse d'ouverture des droits.
Oui, mais donc ça veut dire fondamentalement des économies.
Bon, okay.
Et bon, je l'ai dit...
Entre premier semestre 19, premier semestre 22.
Je l'ai dit, et je vous retrouverai tous les podcasts sur ce plateau depuis 10 ans, à chaque fois, si on doit faire à un moment donné des économies sur l'emploi, ces économies ne doivent pas être gardées, elles doivent être réinjectées dans d'autres façons d'aider les Français à revenir à l'emploi. Alors attention, je mets ma casquette, enfin mon Stetson,
vous en, avez des
en donnant les moyens à peut-être des organismes privatisés d'aider aussi le retour à l'emploi pour mettre en concurrence France Travail, Pôle Emploi, on l'appelle comme on veut. Il faut surtout éviter d'imaginer faire des économies sur le travail, le retour à l'emploi. C'est impossible, en particulier lorsque l'on passe la barre des 50 ans. Toute économie faite doit être réinjectée uniquement dans l'amélioration de ce système de retour à l'emploi. Donc par exemple, si on doit réduire la durée du temps de travail pour la dernière explication de réforme, parce que ça éviterait peut-être que certains, et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, restent tranquilles chez eux, parce que c'est ça que les gens s'imaginent, plutôt que de retourner bosser, ok, on le fait. Mais les économies à ce moment-là doivent permettre d'éviter ce réflexe de déclassement que pourrait avoir un cadre vers un métier intermédiaire et un intermédiaire vers un métier non qualifié. C'est la seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sinon, moi, je suis évidemment pour qu'on réforme encore plus et qu'on privatise une partie du retour à l'emploi.
Il y a un timing pour les réformes.
Mais la concurrence, elle est saine. D'accord. Par moment, si elle est maîtrisée.
Je vais réagir, Augustin. J'ajoute un élément d'information qui date d'hier. On voit venir, de manière assez précise, parce qu'il y a même des débuts de pistes très précises, au-delà des 10 milliards de coupes dans la dépense de l'État, qui ont été publiés par décret. On a vu avec François Eckel hier qu'on était probablement sur un chiffre brut et pas un chiffre net. François, lui, son pari, c'est qu'on serait, si on arrive à 4-5 milliards nets, ce sera quand même déjà pas mal. Et là, on commence à parler maintenant de s'attaquer à la dépense sociale. Il y a la réforme de l'assurance chômage, on vient d'en parler, mais il serait question de monter la CSG sur les indemnités des chômeurs, qui est réduite aujourd'hui, et éventuellement de remettre en cause le remboursement à 100% des ALD, les affections longue durée. Tout ça s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà sur le doublement des franchises médicales et autres. Votre position, Augustin, par rapport à ce qu'on vient de se raconter?
Séparons un peu l'économique et puis après comment ça rentre dans le débat politique d'aujourd'hui. Sur le pur économique, je suis d'accord avec Eric, il y a des arbitrages compliqués. D'ailleurs, les règles qui s'appliquent à un moment, qui sont optimales à un moment, le sont pas forcément à un autre. On est dans une période quand même de changement technologique fort. Moi, mon sentiment, c'est, et il y a un aspect intergénérationnel dans la mesure, qui est qu'elle vise au fond plutôt les plus de 50, je sais plus quel est le seuil, 52, 53. Donc cet aspect intergénérationnel, il est important parce que, en période de choc technologique, si vous voulez, les primes de seniorité, l'idée qu'un type de 55 ans doit gagner nettement plus que quelqu'un qui entre sur le marché de l'emploi, elles sont pas toujours, elles reflètent souvent mal la productivité. Et donc ça, il y a un moment où effectivement les gens doivent accepter des décotes de salaire, cette espèce de tabou sur
accepter des décotes.
Mais bien sûr, donc ça, c'est ce que le rapport montre d'ailleurs, le rapport qui
je
est
doute que les partenaires sociaux nous chose. Proposent ce genre de piste.
Le rapport montre que effectivement ça pousse les gens à accepter parfois des salaires plus faibles que ce qu'ils avaient avant, parce que la productivité d'un senior est pas toujours nettement plus forte que celle d'un junior dans des périodes de changement technologique fort. Donc je pense que c'est de manière cryptée, c'est pour ça que c'est Attal qui l'apporte aussi, je pense. Il y a un aspect intergénérationnel qui est, à mon avis, un élément intéressant de ces idées.
J'ai jamais entendu les choses expliquées comme ça par Gabriel Attal, excusez-moi.
Mais oui, mais n'empêche que c'est bien, enfin, c'est bien de ça qui
les messages dit, cryptés qui sont absolument indécryptables pour les gens, c'est
non,
sympa.
Non, mais c'est écrit, mais c'est dit noir sur blanc, ça vise essentiellement la durée d'indemnisation des personnes de plus de 53 ans. Donc l'idée, c'est bien de dire, il y a des cas où voilà, il faut accepter de ne pas être payé autant qu'on était avant, je pense que c'est ça.
Il a parlé des 18 mois, Gabriel Attal, c'est la durée en dessous de 53 ans. Il n'a pas parlé des durées majorées entre 53 et 55, et encore un peu plus majorées, je crois qu'on est passé de 36 à 28 mois pour les plus de 55. Ouais. Mais c'est pas trop ce qu'il veut faire, en fait. Hein. Mais ensuite, qui va mettre ça au menu des partenaires sociaux.
Donc après, il y a l'économique stricte. Après, dans le débat public, moi, je remarque effectivement, les levées de boucliers ne sont pas drastiques. C'est-à-dire que les gens ont l'air de considérer que, ce n'est pas légitime de passer plus d'un an au chômage. Il y a une espèce de... Effectivement, en tout cas, c'est un peu un ballon d'essai, ce truc. Et on voit bien que les réactions ne sont pas très violentes. Donc, il y a bien, dans la société... l'impression que effectivement les gens doivent
se
bouger.
Voilà,
cela dit, donc dans le rapport, parce que j'ai regardé un petit peu, donc d'abord le rapport il est pas conclusif, il prend
plein de pincettes
pour dire il est beaucoup trop tôt pour conclure quoi que ce soit, mais un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est il documente le fait que les TPE PME en fait sont même pas au courant vraiment des réformes bonus malus. Donc il y a des sondages, leur demande, et alors est-ce que ça vous avez changé, ils disent mais on est même pas au courant de quoi vous, donc ça c'est très intéressant en fait.
Entre ça et les individus qui ne savent même pas qu'il y a eu une ou deux ou trois réformes.
Donc ça rejoint le thème de la prolifération normative, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens arrêtent de suivre, ça change tous les trois mois. Donc voilà. Donc ça c'est l'autre aspect de ces débats.
Je viens de réaliser qu'il y a eu cinq réformes depuis 2017.
Ouais.
Objectivement, je ne suis pas capable de vous citer. Je peux vous en citer trois. Mais pas 5.
Donc il faut sans doute stabiliser économiquement.
Bruno Coquet de l'OFCE est cité ce matin. Il dit, généralement, vous ne mettez jamais les gens dans la rue en réformant l'UNEDIC. Et généralement, c'est plutôt considéré comme des réformes populaires. Donc, politiquement, il n'y aurait pas de risque. Alors, Eric, allez-y.
Mais pourquoi on ne met personne dans la rue? Parce qu'il faut rappeler que la durée d'indemnisation, vous voyez, on parle de la potentielle, c'est 18 mois, mettons, mais en effectif, c'est la moitié. En moyenne, les chômeurs prennent la moitié de leurs droits. Donc, en fait, ça touche pas grand monde. Et donc, puisque ça touche pas grand monde, ça met pas beaucoup de gens dans la rue. Ça touche juste ceux qui ne peuvent plus faire autrement. Alors, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Et c'est ça qu'on devrait essayer de contrôler. C'est qui le fait de façon volontaire. Et essayons de faire du contrôle pour ceux qui le font.
C'est très difficile.
Alors, c'est très difficile.
Pôle emploi a essayé de le faire. Il arrivait à des chiffres à peu près microscopiques.
Et ben voilà,
de gens qui effectivement étaient en position de profiter.
Oui, mais Nicolas, vous dites bien la chaise. C'est qu'effectivement, il y a que 8 à 10% des chômeurs qui ne jouent pas le jeu. Et donc, on fait des mesures pour ennuyer tout le monde. Alors qu'on devrait faire des mesures pour ennuyer les 8 à 10 qui ne jouent pas attention aux effets de bord. Ça, c'est le
problème. C'est pas uniquement de la punition. Il y a l'idée que ça accélère la reprise d'emploi globale.
Mais encore une fois, si ça accélère et que ça aboutit à un optimum un peu dégradé, c'est-à-dire qu'on ne va pas là où on veut, je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on s'épanouisse au travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais signaler, c'est que je pense que le gouvernement va être pris à son propre jeu. Parce qu'il a mis, en même temps, il a voté une loi de contrat cyclicité. Rappelez-vous, quand le taux de chômage, et il a mis avec le taux de chômage du BIT, quand le taux de chômage au BIT descend, on durcit. Quand le taux de chômage au BIT remonte, on va réallonger. C'est à 9%. Si le taux de chômage remonte à 9%, la durée automatiquement va augmenter. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent accélérer? Je ne sais pas. Mais regardons maintenant. Là, le taux de chômage, si on a raison, 7, il a 7,4.
4, oui,
7, OK, 7,5, pardon. 7,5. Oui, 7,5. Imaginons qu'on ait raison à l'OFCE et que le taux de chômage continue à augmenter cette année.
On le voyait à 8, je crois.
À 7,9. Allez, 8, disons. Bon. On va être à 8. Qu'est-ce qu'il arrive en fin 2024? Qu'est-ce qui arrive en 2025? Le fait que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à Pôle emploi. D'accord? Et quand tu t'inscris à Pôle emploi, tu dois faire les 15 heures d'activité, c'est des recherches d'emploi. Tiens, d'un coup, les chômeurs qui étaient dans le halo du chômage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme chômeurs parce qu'ils ne recherchaient pas un emploi activement, vont rechercher un emploi activement.
Ils seront donc éligibles à la définition de l'égalité.
Et voilà. Et vous savez
ça
combien
va faire bondir.
Vous savez combien il y a de personnes, ça va toucher combien de personnes? 1,2 million.
Oui, il y a 60% des RSA qui sont
millions.
Pas.
Donc si 1,2 million, alors ça, tout le monde ne va. Mais bon, si, imaginons.
J'ai compris.
Imaginons qu'il y ait beaucoup de monde qui s'inscrivent, le chômage au sens du BIT passe à 9, la durée augmente. Et donc, du coup, le gouvernement qui voulait le réduire va être obligé de l'augmenter à cause de cette mesure. Mais voyez, moi, je pense que si la hausse du chômage est liée à cela, c'est une bonne hausse du chômage. Si les chômeurs qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sous le radar, qui ne les recherchaient pas activement, eh ben, ils recherchent. Tant mieux, ils ne vont pas toucher une indemnisation à ces gens-là de toute manière, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ils vont rechercher de l'emploi et c'est plutôt bien. Donc vous voyez, il ne faut pas voir la période de chômage comme une mauvaise période. Au contraire, il faut, au moment où on les a sous le radar, les aider à retrouver un emploi, à leur dire il faut les qualifier, il faut t'encourager, on va te suivre. Mais ça, vous voyez, il faut réinverser la façon de voir le chômage. La période de chômage, généralement, c'est une période qui doit être cruciale où on dit, tiens, voilà, t'es déqualifié parce que maintenant, les nouvelles technologies, tu sais pas, et donc tu vas pas rester dans cet emploi-là, on va te reformer à autre chose. Et donc, mais des fois, il faut plus que 6 mois pour réapprendre un métier,
Marc, une pause, etc. Donc c'est très important. Je rappelle juste un élément par rapport à ce que disait Eric. En début 2025, on va généraliser l'obligation de case inventaire d'activité pour les bénéficiaires du RSA, qui sont 1 900 000, mais sur les 1 900 000, il n'y en a que 40% aujourd'hui inscrits dans les dispositifs de service public de l'emploi, ce qui veut dire qu'on va avoir une explosion un peu mécanique.
Alors, à cela, il faut rajouter les jeunes. Les jeunes qui sont dans les dispositifs sont obligés aussi.
Les jeunes de quoi ?
Ben, les jeunes qui sont dans les dispositifs d'insertion vont être obligés aussi de s'inscrire à Pôle emploi. Et donc, c'est ça qui fait le 1,2
million. Ça va pas être bon pour le moral, hein, si on retrouve les 9,2% de chômage.
Ah, c'est possible. Il faudra expliquer pourquoi le chômage augmente. Oui. C'est pas uniquement à cause de la conjoncture.
Vous avez remarqué qu'il est très rare qu'on puisse rentrer dans la complexité d'un sujet économique pour vraiment le. C'est quand on voit, d'ailleurs, le nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai passé à raconter, même sur BFM TV, ces réformes. Et là, dans l'étude de France Stratégie, la majorité ignore totalement qu'il y a eu des réformes de l'assurance chômage. Donc c'est parfois un peu désespérant. Vous voulez réagir, vous réagirez dans un instant. Je voudrais quand même vous demander si remettre une couche de coupe budgétaire sur le social. Après, continuer à dire qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, il y a un moment, il faudra arrêter. Hein, parce que là, ça va être bon. Après, on fait la semaine de 4 jours et la croissance. Enfin, on va faire décoller l'activité avec Augustin Landier. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Augustin Landier, professeur à HEC. Et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Il y a cet auditeur qui s'appelle Aïd qui m'écrit « C'est bien beau, créer ton entreprise. Moi, j'ai mis plus d'un an à me verser un salaire décent quand j'ai créé ma boîte. Heureusement que j'avais le chômage, dit-il. » Vous voyez ?
J'ai pas dit le contraire.
Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme...
Il a pu lui être versé d'un coup, d'ailleurs, peut-être, pour apporter au capital et au...
Ibrahim m'écrit « Merci à Eric.
Félicitations.
Merci à Eric pour son effort de pédagogie. » Voilà. Et puis le même, là, continue. « Sans indemnité chômage, comment créer sa boîte si on n'a pas de patrimoine et pas de love money ?»
Très bien.
Bon. Ah oui, c'est parce que voilà, ça faisait...
Non, mais il résume parfaitement ma pensée.
Vous voulez dire encore quelque chose ?
Non, mais finalement, Eric a réexpliqué un peu tout ça. Il faut avoir vraiment conscience, quand on parle du social, de toutes les réformes, qu'elles soient sur la sécurité sociale, la santé, le chômage, etc. Il y a une perception toujours économique, mes deux co-débatteurs le prouvent, c'est-à-dire la partie technique, et vous l'avez dit, que grande majorité d'entre nous ne comprenons pas toujours. Il y a la partie politique, c'est-à-dire comment on traduit les chiffres. Des fois, on les manipule, on va le dire, hein, je vais poser le mot. On les manipule un peu, et Eric vient de mettre le doigt dessus sur ces détenteurs du RSA non inscrits, entre guillemets, ou en tout cas non comptabilisés, pour revenir sur ce qu'on disait. Et puis, il y a la notion de perception. Et je reviens toujours, c'est pas forcément une incompréhension des Français, tout ça. C'est une perception, c'est-à-dire on se voile un peu la face. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a plusieurs années, je m'étais lancé un peu en politique. Les indemnités chômage étaient un vrai sujet, en tant que libéral, que je combattais. J'avais rencontré beaucoup de gens, y compris des gens dans les antennes Pôle emploi. Et ils nous disaient 90%, ce qui correspond aux 8-10% des fraudeurs, je mets des guillemets pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. la grande majorité des gens restaient 18 mois au chômage, 24 mois, 36 mois, 6 mois, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est pas concevable pour eux, Nicolas. Personne, c'est sortir du système social que de rester chez soi à rien faire en se disant je suis payé à rien faire. Faut qu'on enlève, et c'est le libéral qui le dit, cette idée. C'est comme celui qui fraude à l'arrêt de travail, etc. Ça reste que une petite minorité, mais voyez la notion de perception entre économie, politique et perception des gens. Les gens ne pensent que aux gens qui fraudent. Ils ne pensent pas finalement à la réalité technique de ce débat.
Deux, trois trucs. J'aimerais qu'on aille vite, mais bon, je vais commencer avec vous, Eric, avec Augustin. Tiens, est-ce que c'est opportun aujourd'hui, pour les mêmes raisons de contrat cyclicité, de se dire que je les sens un peu morts de faim à Bercy, hein. 10 milliards de décrets d'annulation de dépenses. C'est, mine de rien, on ne sait pas si on les fera, mais c'est un montant qu'on n'a jamais affiché en décret d'annulation de dépenses. Et là, on est en train de nous dire que c'est le social. Donc, pourquoi pas remonter la CSG sur les indemnités chômage? C'est 9,4 pour un actif. C'est 6,2 pour un chômeur, même 3,8 pour celui qui n'est pas imposable à l'IR. Pourquoi ne pas cesser la prise en compte à 100% des ALD? Pourquoi ne pas sous-indexer les pensions de retraite en 2025? Voilà trois éléments dans l'actualité toute récente. Vous vous dites, oui, allons-y, parce que c'est le sens de l'histoire. Il faut bien qu'on retrouve des niveaux comparables aux autres pays, ou alors non, désespérément, c'est pas le moment.
Là, c'est de la politique. Hein.
C'est de la politique.
Moi, ce que je peux observer, c'est...
Moi, mais pas derrière la politique, il y a des choix avec des...
Qu'est-ce qui crée de la colère, qu'est-ce qui n'en crée pas, hein. Donc, c'est vrai que la CSG sur les retraités, ça avait le premier Macron 1...
souvenir sur les retraités.
Voilà, donc ça, avait créé de la colère.
1,7 de CSG égale des ronds-points.
Bon, donc là, pourquoi sur les retraités, ça crée un sentiment très fort? Est-ce que ça le crée moins sur les chômeurs? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, effectivement, là, de dire...
Mais vous êtes sur le terrain du ça passe ou ça passe pas, en fait.
Non, mais après, il y a la question de la légitimité, enfin, en termes de justice. Là, c'est moins des questions d'économie. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas être trop loin de ce qui se fait ailleurs. Et puis, il faut faire relativement simple. Enfin, c'est un peu un lieu commun, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, l'idée que les taxes dépendent du statut des personnes au maximum. Il faut quand même que ça soit les mêmes taxes pour tout le monde. Donc, cela dit, il y a aussi un autre argument qui est il ne faut pas bouger les curseurs tout le temps. Donc, il faut que tout ça soit relativement stable.
C'est toujours pareil. D'ailleurs, à propos de complexité, je suis allé voir le fameux tableau dans la dernière note d'actualité de François Eccal sur le financement du modèle social. Ah oui, là, on se dit qu'on est les champions du monde. C'est en ligne. C'est pas le moment, encore une fois, Eric.
Non, mais c'est surtout pas les bonnes raisons. Non,
enfin, si on comprend... C'est de l'économie, là. C'est du...
Oui, mais pourquoi?
Je gratte des milliards. Non, mais...
Le gouvernement avait voté un budget avec 1,4% de croissance, et donc il y avait un déficit qui devait être tenu. Bon, ils révisent leur scénario de croissance de 1,4 à 1. Donc ils disent, il y a des moins bonnes nouvelles. Donc du coup, il nous manque de l'argent, donc on va essayer de le trouver.
Oui, mais ça, on a bien compris.
Oui, mais ça, on ne peut pas l'expliquer comme cela. Pourquoi? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les règles budgétaires, même européennes, ne sont pas comme ça, en disant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des efforts structurels, en dehors de la conjoncture. Bon, si c'est fait, c'est fait. Si tu me dis que tes 12 milliards d'économies de dépenses vont être faites, peu importe ton déficit, si ton déficit se dégrade parce que la conjoncture est moins bonne qu'anticipée, c'est pas grave. D'accord? Et là, le gouvernement dit, si c'est grave, je vais en rajouter. Et là, on retombe dans les mêmes erreurs que 2011-2014, où on se dit, tiens, la conjoncture se dégrade, donc qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Encore une fois, là, aujourd'hui, très clairement, les entreprises nous disent, les carnets de commandes sont vides. Donc, si aujourd'hui, les carnets de commandes sont un peu plus vides que le gouvernement avait anticipé, donc il y a moins de croissance économique, donc il y a moins de recettes, on dit, tu sais quoi, je vais encore casser la demande en tapant sur, en augmentant l'impôt sur les chômeurs qui consomment. Eux, ils ont une proportion marginale à consommer qui est quasiment unitaire. Quand tu leur donnes 100 euros, ils consomment 100 euros. Et donc, tu vas aggraver le problème de demande. C'est ce qu'on appelle les multiplicateurs budgétaires qui sont très élevés dans ce contexte-là. Donc, se dire aujourd'hui, à l'époque de 2011-2014, on n'avait pas le choix, les règles budgétaires nous l'imposaient. Là, les règles budgétaires ont été réformées, ils ne nous l'imposent plus. Ils nous disent simplement, fais des efforts structurels, ne réagis pas à la conjoncture. Le gouvernement réagit à la conjoncture. Je n'arrive pas à comprendre. Et ensuite...
Moi, je me suis demandé... S'il commence pas à croire un peu au scénario Gaspard Koenig qu'un jour ou l'autre, ça va mal finir.
Ok, peut-être. Sans aller jusque-là. Oui.
Mais entre nous, je crois que si on veut vraiment le faire, effectivement, se dire qu'on va le catégoriser, c'est pas la bonne façon. Dire, allez, le problème, ce sont les chômeurs et les retraités, c'est pas la bonne façon de. Il faudrait dire, bon, allez, on fait un effort collectif. tout le monde va y contribuer. Pourquoi pas? Mais pourquoi ceux qui sont dans l'emploi et qui gagnent beaucoup d'argent ne contribueraient pas et uniquement ceux qui sont dans l'inactivité, soit chômage et retraités le font? Non, je pense que là, il y a un moment. Soit on dit, les règles budgétaires, on les respecte, il y aura plus de déficit parce que la conjoncture est moins bonne, dont acte, mais vous inquiétez pas, on a fait des réformes, la croissance va revenir et donc on va respecter nos déficits plus tard. Mais ne refaisons pas l'erreur de 2011-2014 qui a fait à peu près 3-4 ans de croissance nulle en France.
J'aimerais juste rajouter dans la discussion, puisque pourquoi faire ça maintenant? Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'angoisse sur la dégradation globale. Et alors, j'ai été étonné de la chronique de Gaspard Koenig dans Les Échos ce matin, qui dit « Attention, préparez-vous à la faillite ». C'est le titre. Et il dit « De toute façon, le pire arrive toujours un jour. On ne sait pas trop quand. Et le pire, ce sera un défaut de paiement ». Il nous vend la chose, alors que dès qu'on place du papier français, oui, ça part comme du petit pain, généralement.
Nicolas, on a...
Stéphane Van Huffel.
Sauf le respect qu'on a pour Gaspard, on a souri, parce que c'est un scénario extrêmement noir d'un coup, très brutal, etc.
Ça lui ressemble pas.
Oui, mais sauf que...
Si.
Alors, vous trouvez que ça lui ressemble?
Alors, il a été constant là-dessus, bien sûr. Il a même un roman entier qui s'appelle La nuit de la faillite, je crois.
Ouais, quelque chose comme ça,
La nuit où...
C'est pas l'image que j'ai du personnage.
On a quelques experts
qui reviennent ici, d'ailleurs.
On a quelques experts comme ça qui ont cette vision assez négative, toujours, et puis ça arrive un jour...
Je sais, mais...
Non, mais il y en a d'autres, je pense à certains, et qui vont vous dire, c'est demain, on va tous mourir.
On va tous mourir.
Bref, là, je me permettrai donc de ne pas être d'accord avec Eric sur... Il y a quand même une notion, alors qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, on a quand même, et là ça rejoint votre question sur Gaspard Koenig, il y a quand même des agences de notation qui aujourd'hui peuvent dégrader la note de la France, ce qui fait que ça réglerait le problème, alors on est tous d'accord, mais dans une mauvaise condition, parce que si c'était le cas très clairement, ce qu'on arrive à faire, ce que la France a la chance de faire depuis des années, même des décennies, c'est de pouvoir emprunter et de continuer à avoir des conditions d'emprunt qui sont, pour moi, parfois totalement décorrélées de la situation exacte de la capacité de la France à rembourser. Alors, je sais qu'il ne faut pas comparer un État avec une entreprise.
On vend de la dette allemande mieux payée. Voilà. Donc, c'est normal
mais
qu'elle soit...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, et c'est là où on se rejoint toujours sur ce sujet-là, c'est pas le bon timing. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas une dette à un moment donné où on n'a pas les moyens de le faire. C'est plutôt quand tout va bien qu'on se désendette pour pouvoir, au moment où on va pas bien, éviter d'avoir à casser l'outil. Ça, c'est le chef d'entreprise qui en parle, en utilisant justement l'outil de la dette. Le problème de la France, là, et c'est le deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que contrairement à 2011-2014 ou d'autres périodes précédentes, là, on a quand même eu le Covid. Et le Covid, à un moment donné, il y a eu cette notion de quoi qu'il en coûte, qui a fait une accélération de l'endettement fondamental de notre pays, qui n'est pas due à la mauvaise gestion de nos politiques, ni, grosso modo, à un choix, j'ai envie de dire, d'être un peu léger comptablement, comme on peut le reprocher depuis 40 ans à nos dirigeants. Là, on a eu mondialement, ça a été un peu le cas d'ailleurs en 2008-2009 d'ailleurs aussi, en y pensant, mais on a eu une obligation à un moment donné aussi, Nicolas, à laisser partir un peu le truc. Donc quelque part, c'est pas le bon moment, oui, c'est jamais le bon moment. Mais il y a un moment donné où il faut quand même, pour les instances internationales, pour les agences de notation, pour assurer la signature de la France, peut-être quand même dire stop, et on doit faire des économies et on doit annoncer des économies un peu drastiques. Le social, Nicolas, et c'est là où Gaspard a raison, c'est qu'on sait que sans aller jusqu'à la faillite, une réforme trop forte sur le social déclenche des ronds-points, déclenche l'arc de triomphe, et plus si affinité malheureusement, parce que il faut éviter d'en arriver là.
C'est du Gaspard Koenig dans le texte, vous me dites, Augustin Landier ?
Oui, donc Gaspard Koenig a toujours été sur cette ligne-là et a une sorte de fantasme quand même de défaut de la France avec un grand soir et un grand matin quoi où tout, enfin il y aurait un reset.
Ils sont nombreux à penser qu'un jour il faudrait que ça nous arrive pour que ça bouge vraiment. Ouais. Moi je pense que c'est pas souhaitable. Bon,
donc je crois pas. Enfin moi j'adhère pas. Enfin je pense pas que ce soit un scénario très très plausible. Il existe hein, évidemment. Il n'y a jamais une probabilité zéro sur ces scénarios évidemment. Mais donc en revanche je comprends l'idée de bon d'abord. En théorie, effectivement, on voudrait se désendetter quand ça va bien et pouvoir, au contraire, enfin, lisser au maximum les efforts de l'État, contribuer, enfin, l'État devrait contribuer plus quand ça va mal. Mais évidemment, la contrainte de la crédibilité de l'État à rembourser, elle se rapproche. Ouais. Donc ça, je comprends qu'il y ait besoin de faire du signaling. Et donc le signaling, il porte sur deux dimensions. C'est-à-dire qu'il faut soit signaler qu'on a une capacité fiscale qui vient du fait qu'on est capable d'augmenter les impôts. Ça, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dessus. On voit bien qu'on a saturé un peu notre capacité à lever plus d'impôts. Et donc l'autre, c'est de dire que on peut libérer de la capacité fiscale parce que l'État est capable de baisser ses dépenses. Et donc là, l'idée, c'est d'envoyer un peu un signe que oui, c'est possible et le pays est capable de le. Donc il y a un aspect signaling, mais on entre dans des zones un peu délicates. C'est-à-dire que le problème de la crédibilité de la dette, va être reposé dans les années qui viennent. Ça, c'est. c'est sûr.
Mais il y a un vrai ciblage, il y a un vrai ciblage encore, Nicolas. On va pas ouvrir le débat là, mais il y a un vrai, il y a un vrai ciblage sur la dépense publique aujourd'hui, puisque le vrai perdant, ça va être la transition climatique. Non, mais ça, c'est un vrai sujet, parce que moi, j'ai 47 ans, donc quelque part, bon, mais j'ai un petit garçon de 12 ans. Le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que si on devait s'endetter, si on doit à un moment donné accepter l'idée de ne pas se désendetter trop vite, on devrait remplacer en tout cas les mauvaises dettes. Je mets des guillemets.
Je les vois, les, voilà. Non, mais... les déceptions depuis quelques jours.
Mais Nicolas,
prenez les 10 milliards et regardez ce qui sont des investissements d'avenir qu'on a décidé.
Le vrai sujet, il est là quand même. Enfin,
allez-y, Eric, pas trop long. Je veux qu'on fasse du 4 jours et de la croissance.
Ok, mais d'abord, ceux qui vous annoncent que la prochaine crise est pour demain, ils ont raison, mais c'est trop facile. Et vous voyez, dans Caspar Koenig, il dit la faillite, elle est soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans 10 ans.
J'ai vu.
Et dans 10 ans, il nous dira ça sera soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans 10 ans. Donc ça, il faut, depuis 2008, on entend ça. Et c'est tout l'inverse. Et ces gens-là qui nous l'expliquent n'expliquent pas pourquoi ils se sont trompés depuis 20 ans et continuent à dire la même chose. Donc moi, je pense que c'est quand même honteux comme type de chronique. C'est trop facile à dire et ça se passera pas. Et à cause de cela, on passe sur les sujets importants. La dette publique, pour moi, n'est pas un objectif. La dette publique est un instrument. Il faut qu'on m'explique à quoi sert cet instrument. Si cet instrument s'est fait pour sauver des entreprises au moment de la Covid, est-ce que c'est un bon instrument? Oui, c'est un bon instrument. Donc, très bien, heureusement qu'on l'a fait. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver les retraites? Non, c'est pas un bon instrument. N'utilisons pas la dette publique pour sauver les retraites. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver l'environnement? Oui, je pense que c'est un bon instrument. Il doit pas être l'unique, mais ça fait partie des instruments. Il faut qu'on m'explique à quoi sert la dette publique. Arrêtons de nous focaliser sur le niveau de la dette et essayons de nous dire à quoi elle a servi. C'est ce que disait Stiglitz. Regardez le capital missing. Qu'est-ce que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu la dette publique? Où en serait le tissu productif aujourd'hui? Où en serait la croissance économique aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'aide publique? Donc, et si on doit faire des efforts pour rembourser parce qu'il y a eu des périodes Covid, tout le monde doit être mis à contribution. Pourquoi les aides ont été données à tout le monde? On n'a pas ciblé les aides sur certaines entreprises et pas sur d'autres, sur certains ménages ou pas sur d'autres. Donc, puisque tout le monde en a bénéficié, tout le monde doit y contribuer et dire c'est que des retraités ou que des chômeurs, c'est une honte. C'est simplement dire non, on passe à côté du sujet, il faut que tout le monde y contribue.
15 secondes, Nicolas, par rapport à la remarque.
Il faut de la croissance, je vais la chercher à ma droite.
Par rapport à la remarque d'Aïd tout à l'heure sur la création d'entreprise, oui. C'est la même chose pour l'indemnité. Une indemnité doit choisir si elle est ciblée et qu'elle sert quelque part à développer. Un euro doit développer 1,5 euro. Donc je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur. S'il a utilisé ses indemnités pour créer une entreprise, il a tout compris. Bravo.
Il nous reste 12 minutes. Allez, droit au but. Je veux absolument qu'on parle de la semaine de 4 jours. C'était un souhait d'Éric. Moi, ça m'intéresse ce sujet. Vous écrivez, parce que si on a de la croissance, et c'est le pari de Bruno Le Maire, hein. On ne montrera pas les impôts parce que la croissance fera le job. Et vous écrivez avec David Tesmar dans les colonnes des Échos pourquoi la croissance française est-elle si médiocre, surtout comparée aux États-Unis. Quel est le message?
Oui, non, mais on s'interroge, quoi, parce que c'est vrai quand même, on a fait beaucoup de réformes structurelles, mine de rien, donc le marché du travail, les niveaux de taxation, et on voit quand même un écart qui se creuse avec les États-Unis qui atteint des niveaux vraiment très élevés. On le voit sur le PIB par tête, on le voit sur le niveau de croissance depuis 2019. C'est pas que le coût de l'énergie, parce que ça prédate un peu le début de la guerre en Ukraine. Donc il y a quelque chose qui se passe, en fait, il y a un dévissage européen. Et c'est pas une idée particulièrement originale, mais il y a un des usual suspects, un des suspects naturels, c'est cette espèce de prolifération normative qui est un petit peu devenue l'ADN de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a vraiment une gigafactory de normes européennes. On a en plus des normes nationales qui elles-mêmes prolifèrent. Et donc oui, je pense qu'il y a, et encore une fois, hein, je ne prétends pas que c'est une idée neuve, mais il y a bien un problème de cet ordre-là, et les entreprises le disent. C'est très compliqué de...
Voilà, installer... dada de Gaspard Koenig.
Ouais, le thème de la simplification. Et donc oui, il y a quelque chose qui se produit là en Europe, avec cette impression un peu d'un cheval fou, cette gigafactory normative qui produit des nouveaux codes à peu près tous les 3 mois. Avec une adhésion de plus en plus faible des classes moyennes. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'il y a un moment où ça décrédibilise même l'idée que ça va vraiment se produire, cette transition énergétique. Donc là, il y a vraiment
Et vu tous les reculs, on peut aller dans plein de pays, tous les reculs face aux opinions ou aux différents secteurs d'activité qui sont finalement
décidés par... Donc il y a un chantier à ouvrir, il y a des efforts de clarification à faire. Sur l'environnement, je pense que les classes moyennes sont prêtes à, d'abord, faire les efforts minima pour être en avance de phase, mais pas complètement devant les autres grandes zones géographiques. Donc les gens veulent pas, parce que le problème du carbone, c'est que c'est un problème global. Donc les efforts qu'on fait, ils nous impactent pas directement. Ils impactent l'ensemble de la planète. Quand on fait des efforts, ça libère de l'espace pour que les autres en fassent moins. Donc c'est ok d'être un peu en avance, mais on peut pas être complètement sur une stratégie qui n'a rien à voir avec ce que les autres sont en train de
mettre. Ça énerve beaucoup les gens quand ils entendent la France, vous faites rien. Ouais. Vous faites rien.
Après, faut distinguer ça des sujets environnementaux qui est, on veut une eau de bonne qualité, on veut des paysages qui reste beau et tout, mais c'est un autre sujet. Donc je pense que sur l'environnement, c'est devenu très important de distinguer les deux, c'est-à-dire les situations où on récupère 100% des efforts collectifs qu'on fait, parce que on améliore la qualité de notre pays, de notre vie, et puis ce problème de coordination mondiale, où je pense que les classes moyennes européennes refusent d'être le dindon de la farce et de partir sur un trip un peu sacrificiel avec des normes qui poussent les choses de plus en plus loin, et d'autant plus loin qu'effectivement, comme les autres ne font pas les efforts qu'il faudrait faire sont considérables. On peut pas, la zone européenne est une petite partie du problème, elle est déjà très en avance sur les autres. La question aujourd'hui sur le carbone, c'est vraiment la coordination mondiale.
Suis convaincu de ce que vous dites, mais après le problème, c'est que je me demande où est la solution. Là, j'ai vu que j'ai pas regardé le détail, mais le Parlement européen a voté une loi reconstruction de la nature,
un truc comme ça. Donc ça prolifère toutes les semaines.
Je me suis dit, oh là là, quand on rentre dans ce truc-là, si je rentre dans le détail, ça va être sauvage.
Je donne juste mon point de vue, une minute là-dessus, parce que ce que vient de dire Augustin est très juste. Mais moi, je pense que, alors après, c'est ma déformation de mon métier, c'est la finance. La grosse différence fondamentale entre l'Amérique du Nord, les États-Unis et le continent européen, c'est la façon de financer, quel que soit le sujet, évidemment, l'environnement, mais l'innovation, l'intelligence artificielle.
Nous, on
la
fait
défense.
La punition, ils font l'incitation, c'est ça
Nicolas,
l'histoire.
Je fais de la gestion de patrimoine, autant vous dire que c'est un métier où la régulation a atteint en Europe un niveau complètement aberrant. C'est complètement invraisemblable. Je comprends pourquoi, parce que finalement, on s'en sort parfois beaucoup mieux que d'autres zones internationales comme les États-Unis lorsqu'il se passe ce qui s'est passé par exemple en 2008. Mais j'ai souvent tendance à dire, et le mot est repris par Augustin, on parle de régulation en Europe, on parle de structuration dans les pays anglo-saxons. C'est donc très différent intellectuellement. Nous, on veut réguler comme si on veut freiner, bloquer, coincer. Voilà. Structurer, ça veut dire on va te laisser faire, mais tu vas pas faire n'importe quoi. C'est de la rhétorique ? Non. Je peux vous garantir qu'en finance, lorsque vous avez un projet, lorsque vous cherchez des fonds en private equity, en capital risque pour traduire, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, mais pas parce que les gens n'ont pas envie de prêter. C'est toute la question de pourquoi c'est le Qatar qui viendrait investir en France, pourquoi c'est les étrangers qui viennent investir en France. Parce qu'en fait, grosso modo, les grands financiers français, ils sont déjà partis investir ailleurs parce qu'ils sont pragmatiques. Ça ne veut pas dire que c'est des grands méchants loups et qu'ils cherchent la dérégulation. C'est qu'on a atteint un niveau complètement invraisemblable. Je crois la phrase « Les Américains innovent, les Chinois imitent et les Européens régulent ». N'est-ce pas, Augustin ?
Innovent, copient, réglementent.
Oui. Voilà.
Mais Dieu sait si l'histoire de l'agriculture, ça a mis vraiment au jour cette histoire de folie normative. Et folie normative à la française, je vous rappelle l'exemple tout bête que nous donnait Robert Rivaton. L'Europe a obligé à faire un DPE sur les logements. Et la France a décidé que les mauvais DPE, c'était on sortait de la location.
Voilà.
C'est un choix français, qui n'est pas dans les...
Pour revenir en arrière, finalement,
oui,
en disant
finalement
certaines surfaces dont on a besoin, finalement, vont être exclues.
Un mot là-dessus, peut-être, Eric, pour pouvoir avoir un peu quelques minutes.
Non, mais je suis d'accord. Je vais rajouter ce qu'a dit Augustin et Stéphane. Il y a deux éléments supplémentaires, me semble-t-il. Il y a un, d'abord, ils n'ont pas de problème d'énergie.
C'est-à-dire, mais les Américains.
Oui. Non, mais ça joue beaucoup. C'est-à-dire que, ok. Alors, mais après, pour l'environnement, c'est peut-être pas terrible. Mais au moins, eux, la guerre en Ukraine et les prix du gaz électrique, c'était pas leur problème. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. L'énergie, mais il faudrait que ce soit de l'énergie décarbonée maintenant, qui soit la norme. Ça, c'est le problème. Et ils ont un policy mix qui est bien plus accommodant. Policy mix, c'est politique budgétaire, politique monétaire. C'est-à-dire qu'ils ont, vous voyez, dans la banque centrale américaine, contrairement à la banque centrale européenne, a comme objectif pas uniquement l'inflation, mais l'inflation et la croissance économique ou le plein emploi. Et donc, ils réagissent aussi en fonction de cela. Et donc, s'il faut baisser fortement les taux d'intérêt, ils le baissent fortement. Quand il faut l'augmenter, ils l'augmentent. Et ça, je pense que la gestion du policy mix est extrêmement important pour comprendre le décrochage depuis 2008.
C'est vrai, mais il y a aussi certains domaines où ils savent aller vite, là où on a du mal
à aller vite.
Je vous rappelle Roland Gillet, professeur à Bruxelles, qui racontait qu'il avait rencontré des Européens qui voulaient s'installer aux États-Unis pour aller palper l'argent de l'IRA. Entre la prise de décision et le moment où ils sont installés, entre 4 et 5 semaines.
Ah ouais.
Il y en a un qui raconte un exemple précis. Il était au bout de 3 semaines dans le bureau du gouverneur de l'État pour dealer le terrain industriel et tout ça. Très bien. Vous vouliez me parler de la semaine de 4 jours ou en 4 jours, Eric.
Oui.
Je ne sais pas si vous la voyez de 4 jours ou en 4 jours.
Bon,
pourquoi ce sujet?
Pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'il y a des expérimentations notamment au Royaume-Uni. Moi, oui, j'adore l'expérimentation.
Moi
et
aussi.
Quand en France, on n'en fait pas, et quand on dit on va expérimenter là, la loi plein emploi, les bénéficiaires du RSA dans 47 départements, ce n'est pas de l'expérimentation.
Comment ça, c'est pas de l'expérimentation?
Mais non, parce que ça y est, c'est voté au 1er janvier, ça sera fait. Donc oui, l'expérimentation, c'est vous le faites, vous demandez à des chercheurs de regarder les effets, si c'est positif, on le généralise, si c'est pas positif, on essaie de le changer. C'est pas ce qu'on fait. Nous, on dit ça sera généralisé au 1er janvier, mais on demande à quelques départements d'être, allez, d'essuyer les plâtres. Regardons.
Et des volontaires en plus.
Et des volontaires. Ça biaise complètement. Alors, ok, donc c'est pas ça l'expérimentation. Ça, c'est juste, on essaie de voir comment ça marche pour essayer d'aider l'administration à y arriver. Mais c'est pas ça l'expérimentation. Alors donc là, pour la semaine, alors 2-4 jours, les Britanniques ont dit tiens, essayons de tester l'idée. Et donc là, on a demandé à des chercheurs du Boston College de suivre. Ouais, et là, d'un coup, ça devient une expérimentation. Alors, pas parfaite, parce qu'il y avait aussi, il fallait que les entreprises soient volontaires. Mmh. D'accord, ok. Donc, c'est pas complètement parfait. Mais au moins, on arrive au bout de, là, maintenant, le rapport est sorti la semaine dernière, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, ben, de savoir, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe. Oui. Et là, je trouve assez intéressant, parce que là, c'est bien la semaine de 4 jours. On réduit de 20% le temps de travail, on maintient les salaires. D'accord.
On réduit de 20% le temps de travail.
On enlève un jour sur 5, un jour dans la semaine de 5
jours. Donc c'est de la RTT pure.
C'est de la RTT
pas obligatoire,
mais okay.
Pure.
Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, est-ce que les entreprises sont contentes? Bah, apparemment oui, 81% des entreprises qui étaient volontaires, hein, donc là il y a ce biais-là, disent on veut y rester. D'accord. Ok, très bien. Pourquoi? Ils nous disent parce que on a des effets positifs qu'on recherchait. C'est-à-dire que, vous voyez, et en France, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, les entreprises se plaignent d'avoir trop d'arrêts maladie. Tiens, avec la semaine de 4 jours, l'expérimentation dit moins 17% de burn-out et beaucoup moins d'arrêts maladie. Très bien. Les entreprises aujourd'hui en France se plaignent d'avoir des rotations trop importantes. On n'arrive pas à fidéliser. Là, ils nous disent 50% des entreprises disent maintenant il n'y a pas assez de rotations. Même il y en a plus.
C'est si confortable qu'on n'a plus envie de partir.
Et oui. Et donc les entreprises disent on aime bien la rotation parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des promotions. Là, c'est un peu compliqué, mais au moins on garde.
Le turnover fait aussi partie de la vie d'une boîte.
Ok. Mais là, ils disent les gens ne restent pas. Mais ça, c'est deux éléments qui expliquent les pertes de productivité chez nous. C'est-à-dire que les jeunes restent pas, donc ils sont à peine formés, qui s'en vont, la perte de productivité, et les arrêts maladie, perte de productivité parce que je suis embauché. Ben, ils nous disent, la semaine de 4 jours, ça les réduit.
Mais ils disent aussi que ça a augmenté le coût du travail.
Et non.
Comment
ça, non? Non. Mais parce que la productivité, non, mais il faut juste lire, alors encore une fois, c'est sur 61 entreprises volontaires. D'accord. Mais ils nous disent, non, on a gagné en productivité, enfin on a rattrapé la productivité par ces deux mécanismes précités, d'accord, moins d'arrêts maladie et moins de turnover. Les gens, quand ils travaillent, sont focus au travail parce que vous voyez, quand vous êtes au travail aujourd'hui à 5 jours, vous pensez quand même à votre vie privée, vous utilisez votre téléphone pour réserver un médecin, pour etc. Là, non, vous êtes focus au travail parce que vous avez le jour off, d'accord. Et élément, alors moi qui m'a surpris, c'est que les personnes, le jour off, travaillent. C'est-à-dire ceux qui peuvent. C'est-à-dire que globalement, oui, mon jour off, je l'utilise pour aller faire du sport, de la musique, mon médecin, aider mes enfants. Mais il me reste du temps, à peu près 2h15, nous dit l'étude. Je travaille 2h15. Ça fait que globalement, la productivité horaire a fortement augmenté et que du coup, ils n'ont ni embauché. Et ils disent, je reste dans ce matin. Donc, je dis pas qu'il faut le généraliser. Je dis simplement, de temps en temps, vous voyez, il faut essayer de sortir des idées reçues et regarder des expérimentations. Et attention, ne pas faire non plus du cahuc Zilberberg et dire, c'est maintenant qu'on a une vérité absolue, on peut le généraliser. Non, on peut faire du négationnisme aussi des fois. Et de dire, c'est pas parce qu'on a montré de façon scientifique, d'accord, même s'il y a des une chose, que ça peut être généralisé. Mais, ok, moi je trouve quand même intéressant l'expérimentation et les résultats.
Le généraliser, ce serait refaire les lois Aubry.
Non, mais non, il ne faut pas le faire.
Justement, Nicolas.
On a 1 minute 15, on n'ira pas bien loin.
Non, mais je trouve ça intéressant. Ça donnera son avis, c'est juste de dire j'étais à deux doigts de voter pour Eric Heyer, là, sur sa démonstration.
Vous avez changé votre.
Non, parce qu'en fait, il a fini quand même par être.
intellectuellement vraiment très honnête, comme d'habitude, c'est qu'il a fini par dire quand même que le volontariat était quand même une chose pas si mal que ça pour éviter l'erreur des 35 heures. Parce que alors moi, je défends fondamentalement cette semaine de 4 jours qui existe déjà fondamentalement depuis le confinement avec les télétravails. En vrai, moi, j'ai beaucoup de mes salariés qui sont chez eux. Je sais pas ce qu'ils font et je les contrôle plus. Et pour autant, la productivité, voire, est la même, voire même, est meilleure parce qu'ils ont le temps de faire leur machine, d'aller voir le banquier, etc., etc. Donc, je suis convaincu de ça. Maintenant, il faut juste laisser faire les entreprises par rapport à leurs besoins et aussi au niveau de leurs salariés. Parce qu'on peut avoir confiance dans certains domaines, l'entente sociale n'est pas toujours la même dans toutes les entreprises.
Mais déjà, on refera cette histoire, vous inquiétez pas. Il va falloir bien poser l'histoire entre la semaine en 4 jours et la semaine de 4 jours.
Et là, vous nous avez décrit la semaine de 4 jours. Le vrai débat, Nicolas, c'est chacun choisira s'il va le faire ou pas.
Désolé pour Augustin, mais globalement, pour que ça marche, il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord.
Exactement.
D'accord ? Non, oui, du coup, la semaine en 4 jours, le salarié n'est pas d'accord.
Merci.
Donc, du coup, ça ne sert à rien.
J'ai vu les URSSAF de Picardie.
Mais du coup, ça ne sert à rien.
Ils ont eu 3 volontaires sur 200 éligibles.
Exactement. Et donc, du coup, arrêtons avec la semaine en 4 jours. C'est à la limite la semaine de 4 jours. Ça, les salariés sont forcément d'accord. Est-ce que le manager est d'accord? Eh bien, c'est là où les expérimentations peuvent peut-être faire changer les idées.
Franchement, c'est passionnant. On continuera à le regarder dans le détail. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir été là. On n'a pas eu le temps. Bon, on l'a juste évoqué du bout des lèvres. Mais est-ce qu'il faut se réjouir que le Qatar mette 10 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire en l'espace de 6 ans d'ici à 2030, c'est une information qui est ressortie hier de la visite d'État de l'émir du Qatar. C'était à l'Élysée lors d'un dîner. Merci à vous tous, Éric Heyer, Augustin Landier, Stéphane Redufel. Rendez-vous demain à 9h. Ce sera jour de Cercle des économistes.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.